Le message que vous allez écouter a été prêché à l'origine par John MacArthur de Grace Community Church, qui se trouve au sud de la Californie. John est pasteur, auteur, président du Master College and Seminary. Il est également le prédicateur principal de Une Grâce pour vous, un ministère d'enseignement biblique par les médias diffusé dans le monde entier. Ce message, traduit en français, vous est présenté par Une Grâce pour vous et ses partenaires. Après cet enseignement, nous vous communiquerons les informations qui vous permettront de vous connecter sur le site Une Grâce pour vous. Maintenant, écoutez l'enseignement de John MacArthur qui vous expliquera la vérité de Dieu au travers des versets bibliques.
Comme vous le savez, ce soir, nous allons entamer la seconde partie d'une série sur l'idolâtrie du culte de Marie. Pour commencer, je veux attirer votre attention sur deux passages de l'Écriture comme une sorte de début biblique. Pour ce que je vais dire, le premier passage est celui par lequel nous avons conclu la dernière fois, la prophétie de Jérémie. Dans Jérémie, chapitre 7, nous lisons que des enfants de Juda ramassent du bois. Jérémie 7, verset 18. « Allume le feu, et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux, à la reine du ciel. » Dans le chapitre 44 de Jérémie, ce même genre d'idolâtrie païenne est à nouveau abordé. Jérémie 44, verset 17. « Mais nous voulons agir, comme l'a déclaré notre bouche, offrir de l'encens à la reine du ciel, et lui faire des libations, comme nous l'avons fait, nous et nos pères, nos rois et nos chefs, dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem. Il y avait un culte répandu de cette déesse, appelée la reine du ciel. Cela a été adressé par le prophète. Le peuple a été invité à cesser de le faire. Ils ont refusé. Quand des difficultés sont arrivées, finalement, ils ont acquiescé, ont diminué leur attention à la reine des cieux. Mais quand le jugement de Dieu est tombé, ils ne l'ont pas attribué à leur façon de traiter Dieu, mais sur le fait qu'ils avaient cessé de sacrifier à la reine du ciel. Ils ont été détournés par le culte de la déesse, passage qui revient au verset 25 de Jérémie 44, se référant à nouveau à des sacrifices brûlants à la reine du ciel. Dieu condamne l'apostat de Juda, car le peuple adorait cette déesse du paganisme, appelée la reine du ciel, mais qui a eu un certain nombre de noms différents à travers l'histoire. Le nom le plus récent de cette déesse, triste à dire, est un nom emprunté à la mère terrestre de notre Seigneur, nul autre que Marie, qui a maintenant été transformée par le christianisme apostat dans la dernière édition de la Reine des Cieux. Est-ce important de résoudre ce problème? Oui. 1 Timothée chapitre 1 énonce pour quiconque est dans le ministère, ce qui est un mandat important. 1 Timothée 1 verset 3 Paul dit « Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin, qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Vous devez vous adresser aux personnes qui enseignent des doctrines étranges et des mythes. » Et le verset 5. « Le but du commandement est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Il est important de dire d'emblée que ce n'est pas parce que nous sommes fous, haineux ou rancuniers, mais c'est par l'amour d'un cœur pur. Si vous n'abordez pas l'erreur, si vous ne vous adressez pas à une doctrine étrange, à une hérésie accablante, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'indifférence. L'amour d'un cœur pur, d'une conscience claire et d'une foi sincère exige une telle confrontation. Et nous venons donc nous adresser à cette même déesse séculaire, l'hérésie du paganisme, dans sa forme la plus récente, avec la déesse moderne, ayant volé le nom de Marie. Un déshonneur terrible pour elle. Mais de toute façon, Satan n'a rien de sacré, et le traité n'est pas un manque d'amour, mais l'amour le plus sincère et le plus pur, qui émane d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Maintenant, dans la partie 1, j'ai examiné une brève représentation du culte de Marie à partir du dogme catholique romain et du témoignage catholique romain. À partir du 5e siècle jusqu'au 18e siècle, nous avons regardé un livre intitulé « Les gloires de Marie » par saint Alphonse de Ligorie, écrit à l'origine en 1745. C'est une histoire de dévotion à Marie qui remonte au 5e siècle, réimprimée plusieurs fois. L'édition particulière que j'ai eue est une copie de réimpression d'une édition de 1931, traduite en italien. Il a été écrit en italien, toujours avec l'autorisation officielle de l'Église catholique. J'ai une autre édition de 1981, avec le cachet officiel de l'archidiocèse catholique romain de New York. La conclusion inévitable de toutes ces 750 pages de documents rassemblés à travers tous les siècles, et les choses additionnelles qui sont venues depuis le XVIIIe siècle, dont j'ai beaucoup parlé, c'est que l'Église romaine a divinisé Marie. C'est leur propre affirmation. Ils demandent que les fidèles l'adorent, affirment qu'elle possède des attributs qui n'appartiennent qu'au Dieu trinitaire. En tant que telle, le culte et l'attribution est blasphématoire, satanique, et assaille Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Nous avons donc traité l'attitude des catholiques romains à l'égard de Marie, comme elle ressort de l'histoire de la dévotion envers elle. Je veux creuser un peu plus profondément maintenant, et je veux regarder non pas les expressions et les prières dirigées vers Marie, mais je veux regarder la doctrine catholique actuelle. Qu'est-ce qu'ils affirment réellement être vrai? C'est-à-dire une révélation inspirée de Dieu concernant Marie. Tout ce que je vais dire est étranger aux Écritures. Donc, si vous vous attendez à ce que je vous donne des passages dans lesquels trouver ces choses, il n'y en a pas. Dans la plupart des cas, même dans leur propre littérature, ils reconnaîtront qu'il n'y a pas de passage biblique pour soutenir l'un de ces dogmes. Mais ce n'est pas un problème. Commodément, dans toutes les formes de faux christianisme, vous avez d'autres révélations, que ce soit le livre des Mormons ou les écrits de la science chrétienne, avec les clés des Écritures ou quoi que ce soit. L'hérésie va provenir d'autres sources de révélation. Ainsi, dans la théologie catholique romaine, vous avez une autre source de révélation, le magistère, la tradition de l'Église, que l'Église, le pape, qui représente le Christ, dit être inspiré par Dieu, qui est non seulement égal aux Écritures, mais supérieur, puisque l'Église est le seul interprète valide, l'interprète faisant autorité des Écritures. C'est lui qui juge les Écritures. Ce n'est donc pas un problème pour eux, qu'il n'y ait pas de support biblique pour ces points de vue. Ils trouvent leur soutien dans leur propre tradition, qu'ils considèrent égale, sinon supérieure aux Écritures. Laissez-moi vous donner la liste de ces dogmes à propos de Marie. Le premier s'appelle la doctrine de l'Immaculée Conception. La plupart des personnes ne comprennent pas cela. Ils pensent que cela signifie que Marie a donné naissance à Jésus en tant que vierge. Cela n'a rien à voir avec la naissance de Jésus. La doctrine de l'Immaculée Conception concerne la naissance de Marie. Cela n'a rien à voir avec la naissance de Jésus. C'était en 1854, et le pape Pie IX a publié le célèbre Toro Ineffabilis. Ineffable. Ineffable signifie sacré, divin, transcendant. Ce Toro, ce document, qui est sorti du pape, s'appelle même Ineffabilis Deus, la déclaration ineffable de Dieu. Il dit ceci. Marie a été préservée par l'Immaculée Conception lorsqu'elle a été conçue dans le corps de sa mère et a été miraculeusement libérée de la pollution du péché héritée par le biais d'Adam. Elle était dans l'âme et dans le corps, totalement sans péché, inoffensive, sans tache, pure, innocente. C'est un segment de cette Ineffabilis Deus de 1854. Si je vous en donne encore plus, il dit ceci. En conséquence, par l'inspiration du Saint-Esprit, à travers le pape, pour l'honneur de la Trinité sainte et indivise, pour la gloire et l'ornement de la Vierge Mère de Dieu, pour l'exultation de la religion catholique, par l'autorité de Jésus-Christ notre Seigneur, des apôtres bénis Pierre et Paul, et par les nôtres, qui sont nos propres apôtres bénis, nous déclarons, prononçons et définissons la doctrine qui tient la Vierge Marie, la plus bénie, dans la première instance de sa conception, par une grâce et un privilège singulier accordé par le Dieu Tout-Puissant, en vue des mérites de Jésus-Christ, le Sauveur de l'humanité, a été préservée de toute souillure du péché originel. C'est une doctrine révélée par Dieu, et donc à croire fermement et constamment par tous les fidèles. Le même pape, Pie IX, a déclaré qu'il est très sérieux de rejeter ce dogme, et je cite, « Si quelqu'un osera ce que Dieu interdit, de penser autrement que ce que nous avons défini, qu'il sache et comprenne qu'il est condamné par son propre jugement, qu'il fait naufrage dans la foi, qu'il se sépare de l'unité de l'Église, et qu'en outre par sa propre action, il encourt les peines établies par la loi, s'il ose exprimer par des mots, par écrit ou par tout autre moyen extérieur, l'erreur qu'il pense dans son cœur. Vous êtes damné et vous serez excommunié si vous remettez en question cette doctrine. Maintenant, Cela fait partie du système qui, par la peur, l'intimidation et la lourdeur, oblige les hommes à faire ce qu'ils disent que vous devez faire ou être damnés. L'Église dit en outre que Dieu a dispensé Marie du péché pour faire d'elle le réparateur du monde perdu. Nous sommes tous sauvés par Marie du naufrage du péché. Par Marie, toute la race humaine a été sauvée de la mort. Elle a écrasé la tête du serpent. Pour ce faire, elle devait être sans culpabilité, libre du péché originel et du péché personnel. De Ligori, dans son livre, à la page 297, écrit « Même son corps a été préservé de la corruption après la mort. La chair de Marie et celle de Christ font une. La gloire du Fils est une avec celle de sa mère. Ainsi, le premier des dogmes catholiques auxquels on doit adhérer, ou être anathématisé, c'est que Marie a été conçue impeccablement, c'est qu'elle était sans tache du péché originel. Un deuxième corollaire évident est la doctrine de son absence permanente de péché. Le catéchisme catholique romain de 1994, page 490, numéro 2030, dit ceci. L'Église trouve son exemple de sainteté et reconnaît son modèle et sa source dans la Sainte Vierge Marie. De Ligori dit encore, « Il n'y a jamais eu, et il n'y aura jamais, une offrande d'une créature plus pure ou plus parfaite que celle que Marie a faite à Dieu. Quand à l'âge de 3 ans, elle s'est présentée dans le temple pour offrir à Dieu, non des aromates, ni des veaux, ni de l'or, mais à 3 heures elle est venue au temple, elle est tombée, a embrassé la terre, adoré la majesté de Dieu, la remercier pour sa faveur, et sans rien réserver, toutes ses puissances, tous ses sens, et tout son esprit et son corps. Elle a promis la virginité en disant, « Mon Seigneur et mon Dieu !» La page 348 de De Ligori dit, « Elle est appelée l'enfant saint, et elle a progressé dans la perfection, née sans péché. La toute sainte Vierge a progressé dans la perfection sans péché. On se demande pourquoi. Elle dit dans Luc 1, verset 47, « Mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur. » Cela conduit à un troisième dogme, et je crois que c'est celui qui est bien connu de la plupart des personnes qui ont des liens avec les catholiques romains. C'est la doctrine de la virginité perpétuelle. Cela devient très bizarre. Non seulement elle n'avait pas de péché originel, et elle était impeccablement conçue sans le péché originel d'Adam. Non seulement elle était sans péché, mais elle était une vierge perpétuelle. Cela a été établi en 553, au VIe siècle, et il est devenu dogme au VIIe siècle au Conseil de Latran, en 649, sous le pape Martin I. Ce dogme de la virginité perpétuelle déclare qu'elle était vierge avant la naissance de Jésus. C'est exact. En passant, en lisant Matthieu 1, verset 25, elle est clairement signalée en tant que vierge. En 649, le Conseil a confirmé qu'elle était vierge. Écoutez, elle était vierge pendant la naissance de Jésus. Qu'est-ce que cela signifie? Marie a accouché d'une manière miraculeuse, sans aucune ouverture de son sein, et sans blessure de son corps, et sans douleur. Maintenant, cela devient très descriptif par rapport à ce genre de choses. Dites simplement ceci. Ils ne peuvent pas permettre à une Marie sans péché d'avoir une blessure à son corps physique. Donc le dogme dit que Jésus est sorti de façon miraculeuse, sans passer par le canal de naissance, parce que cela aurait créé une blessure à son corps parfait. Ce n'est pas une doctrine obscure. Je l'ai lu dans de nombreux endroits. Elle était vierge, c'est vrai, avant la naissance de Jésus. Ils veulent la rendre vierge, même pendant la naissance. Et c'est une sorte d'approche étrange de la virginité. Mais le corps absolument intact, non balafré et non blessé de cette déesse est important. Et puis et surtout qu'après la naissance de Jésus, elle est restée vierge pour la vie. Voilà en quoi consiste la virginité perpétuelle. Schreck, dans les bases de la foi, le catéchisme catholique dit « Par respect pour le fait que Dieu lui-même est habité et grandi dans son sein, elle est restée vierge toute sa vie. » Toute sa vie. Ceci, bien sûr, est totalement contraire à ce que dit l'Écriture. Matthieu 1, verset 18. La naissance de Jésus-Christ était la suivante. Quand sa mère Marie, fiancée à Joseph, avant qu'ils soient réunis, elle s'est trouvée enceinte. Qu'est-ce que cela vous dit? Avant qu'ils soient réunis signifie qu'à un certain moment, ils allaient se réunir. Est-ce dur à comprendre? Non. C'est plutôt évident. Dans 1 Corinthiens 7, il est dit « Elle s'est privée de relation avec son mari. C'est un péché. » 1 Corinthiens 7, versets 3 à 5, dit que c'est un péché de ne pas faire son devoir auprès de son mari. Votre corps n'est pas le vôtre, mais celui de votre mari. De même, le corps de votre mari n'est pas le sien. Il est à vous. Matthieu 13, verset 55. N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs, ne sont-elles pas toutes parmi nous? Tout le monde savait que Marie avait des fils, des filles. Jean 7 parle des frères de Jésus, qui ne croient pas en lui. Plus tard, ils ont cru, après la résurrection. Que dit l'Église catholique romaine à ce sujet? Ils disent qu'ils étaient tous cousins, même si aucun de ces passages n'utilise le mot « anapsios », qui est le mot pour « cousin ». Mais chaque fois qu'ils se réfèrent aux frères, alors ils utilisent le mot « adelphos », ce qui signifie « frère ». Vous avez donc ces doctrines étranges, l'Immaculée Conception, qui signifie « conçu sans péché », l'absence de péché perpétuel, qui conduit à la virginité perpétuelle, évidemment. À la fin de sa vie, nous arrivons à ce qu'ils appellent la quatrième de leurs doctrines importantes concernant Marie, la doctrine de l'Assomption. Vous avez peut-être entendu parler de cela, de l'Assomption ou de l'Ascension. Cette doctrine n'a pas trouvé de place dans le canon actuel de la théologie catholique avant 1950. C'était le 1er novembre 1950 que le pape Pie XII a officialisé le fait que Marie est montée au ciel. L'Assomption corporelle de la Bienheureuse Vierge Marie au ciel est un dogme de la foi divine et catholique. Née sans péché, une vie sans péché en tant que Vierge, pour quitter ce monde et monter au ciel. Cette idée de Marie qui monte au ciel, bien qu'elle n'ait été formellement dogmatisée qu'au XXe siècle, remonte à loin, et vous commencez à lire à ce sujet, au Ve siècle, alors que le paganisme et le culte de la déesse païenne se mêlent le plus tôt possible. Souvenez-vous du Saint-Empire romain, comme on l'appelait. Le Saint-Empire romain n'était pas vraiment saint. Il était romain, bien sûr, mais l'empereur, en 325, a décidé que la meilleure chose à faire pour unifier le Grand Empire était de rendre tout le monde automatiquement chrétien. Et comme l'Empire était plein de paganisme, ils ont juste mélangé le christianisme avec le paganisme. Tout cela est arrivé très tôt. Donc, c'est pendant le règne de Gelasius I, un chef autoproclamé de l'Église au Ve siècle. Cela apparaît à ce moment-là. Il y a une discussion sur le fait que Marie est supposée être au paradis. Alors déjà ce culte de la déesse s'est imposé à la pauvre Marie, malgré le fait qu'il était au début considéré comme hérétique. Il n'y avait donc aucune preuve historique. Il n'y avait aucune preuve biblique, évidemment. Donc la première apparition de cette idée est dans un travail très apocryphe, un travail peu fiable, comme l'évangile de Judas, et des centaines d'autres. Il était appelé Transitus Mariae, et il était, au Ve siècle, dénoncé comme une hérésie. Donc, quand il est apparu au Ve siècle, dans les années 400, il est dénoncé comme une hérésie. Mais les choses commencent à se développer, au fil des années, à l'égard de Marie. La prière à Marie arrive en 600. 400 ou 500 ans plus tard, le chapelet entre en jeu, en 1090. Ce n'est qu'en 1950 que cette idée originale, considérée comme une hérésie, que Marie fut prise au ciel lors d'une ascension. Ce n'est qu'en 1950 que cela devient finalement un dogme. Karl Keating est l'un des apologistes modernes du catholicisme romain. Karl Keating est très agressif dans la défense du catholicisme. Écrivant à ce sujet en particulier, il va après les protestants évangéliques qui sont ignorants, inconscients et sont facilement victimes. Karl Keating le dit dans son livre « Catholicisme et fondamentalisme ». Cela vous dira où il dirige ses efforts. Plaidoyer pour l'Église catholique. Karl Keating écrit « C'est l'Église catholique qui a été commandée par le Christ pour enseigner toutes les nations, infailliblement. Le simple fait que l'Église enseigne la doctrine de l'Assomption comme quelque chose de définitivement vrai est une garantie que c'est vrai. C'est Karl Keating, probablement, l'un des deux ou trois principaux apologistes de notre temps pour le catholicisme romain. Si l'Église commandée par Christ pour enseigner à toutes les nations, infailliblement, dit que c'est vrai, alors le fait que l'Église dise que c'est vrai est une garantie que c'est vrai. La théologie catholique dit que Marie est allée au ciel dans son intégralité pour régner
et prendre possession du royaume des cieux. Il y a des énigmes à Marie depuis sa mort.
En voici un. Élève la voix et chante, la fille et l'époux, la mère du roi, à qui la création s'incline. Louange à Marie, louange infinie, élevez vos voix joyeuses, élevez, Louange à Dieu qui règne ci-dessus, qui l'a faite pour son amour, quand Marie s'est encore attardée, un exil de son fils, comme le plus bel ensemble de lys, seul au milieu des épines de la terre, et puis le refrain, louange à Marie, louange sans fin, etc. Avec Dieu en haut, son cœur était tout en feu. Elle cherchait, demandait à mourir, avec humble doux désir, à la fin, son conjoint céleste, qui l'a aimé avec un tel amour, invite à se reposer, avec lui au ciel ci-dessus. Louange à Marie, louange infinie. Élevez vos voix joyeuses, élevez. De Ligori écrit à la page 144. Lors de son ascension, le purgatoire a été vidé. Ceux qui étaient à ce moment-là au purgatoire ont été relâchés. Donc vous avez ces quatre idées très très étranges et non bibliques à propos de Marie. Niez l'une d'entre elles, niez tout dogme officiel de l'Église catholique romaine. C'est être anathème, condamné et damné, et du point de vue de l'Église, excommunié. Ces quatre déclarations ont des conséquences pour sa vie terrestre. Elle est venue sans péché. Elle a vécu sans péché. Elle a vécu comme une vierge. Et à la mort, a été immédiatement élevée ou attendue au ciel. Maintenant, cela la met au paradis. Et nous tournons la page. Et parlons de la façon dont l'Église catholique considère son rôle dans le ciel. Les quatre premières parlent de comment il la voit sur terre. Le reste, comment il la voit dans le ciel. Je veux être très prudent à ce sujet, mais je veux être assez détaillé, parce qu'il est si important que vous compreniez cela, et que nous nous assurions que les sources sont indiquées. Faisons ce numéro 5 dans notre liste. Donc les quatre premières concernent la vie ici-bas, et la suivante concerne la vie au ciel, du point de vue catholique. La première chose que vous voulez savoir à propos de Marie au paradis est qu'elle est immédiatement identifiée comme la Mère de Dieu et la Reine des cieux. D'après la théologie de Ludwig Hoth, page 211, le droit de Marie de régner en tant que reine des cieux est une conséquence de sa maternité divine. Elle est toujours la mère de Dieu, une déclaration très trompeuse, une déclaration non biblique. Elle, en fait, domine tout le calendrier de l'Église. Il y a, et je les ai comptés avec mes doigts, sur le calendrier catholique, environ 50 fêtes et festivals annuels consacrés à Marie, 42 d'entre eux, sont sur des jours fixes et 5 sont variables. À partir de janvier jusqu'en décembre, il y en a 47 exactement, des fêtes et des festivals consacrés à la Mère de Dieu et à la Reine des cieux. C'est Jean-Paul II qui s'est consacré, lui et son pontificat, à Marie. Il est le pape qui vient d'être remplacé par le pape Benoît XVI. Sa devise personnelle, « Totus tuus sum Maria »,« Je suis tout à toi, Marie ». Le 8 octobre 2000, devant l'image de Fatima Vierge, apparition présumée de Marie, le pape se tenait devant l'image de Fatima et a consacré le monde et le nouveau millénaire à sa reine personnelle et céleste, qu'il appelait Marie très sainte. Pie XII encore, le même que nous avons mentionné plus tôt, a mis en avant cette déclaration. Ad Cauli Reginam, la bienheureuse Vierge Marie, doit être appelée reine, non seulement à cause de sa maternité divine, mais aussi parce que, par la volonté de Dieu, elle a eu une grande part dans le travail de notre salut. Dans cette œuvre de rédemption, la bienheureuse Vierge Marie était étroitement associée à son Christ, tout comme le Christ, parce qu'il nous a rachetés par un titre spécial, notre roi et seigneur. De même, la bienheureuse Marie, notre reine et notre maîtresse, a coopéré à notre rédemption. Elle a prêté son propre corps pour la naissance de son Fils. Elle l'a volontairement offert pour nous, et elle a pris une part unique à notre salut, en le désirant, en priant et en l'obtenant. Elle mérite donc d'être appelée la Mère de Dieu et la Reine des cieux. C'est le Newsweek magazine en août 1997. Newsweek a dit « Marie a changé la Trinité en un quatuor sacré. Marie est considérée comme l'épouse du Saint-Esprit, la mère du Fils et la fille du Père. Et même un étranger qui regarde peut voir qu'elle est traitée comme un quatrième membre de la divinité. D'où vient cette idée de mère de Dieu? C'est tellement trompeur. Comme si Dieu avait une mère qui lui a donné naissance. Cela a été utilisé pour la première fois par Alexandre, évêque d'Alexandrie, au IVe siècle. Le culte de la déesse, au tout début, le Saint-Empire romain germanique, prend naissance au IVe siècle, au début du siècle. Cette mère de Dieu entre rapidement dans l'année 431, au concile d'Éphèse. C'est établi en 451 dans le concile de Chalcédoine. Elle doit être appelée la Mère de Dieu. Cela contribue à des siècles et des siècles de déification accumulée de Marie. Elle devient égale à Dieu, et bien que l'Église fasse de son mieux pour l'expliquer, elle fait de son mieux pour le nier. La vérité est qu'elle est vraiment supérieure à Dieu et supérieure à Christ, comme cela devient très évident dans ce qu'ils disent et comment ils la représentent dans les cathédrales du monde entier. Elle règne au ciel comme reine, souveraine, salvatrice, sanctifiante, sympathisante. Tout ce pouvoir lui est donné alors qu'il n'appartient qu'à Dieu. Encore une fois, c'est Karl Keating qui essaye de vendre la foi catholique aux fondamentalistes qui disent « La grâce de Dieu n'est accordée à personne sans la coopération de Marie ». Le numéro 6 de ma liste de la façon dont l'Église catholique la voit n'est pas tellement un dogme, mais c'est une expérience de Marie qui est largement acceptée et reconnue. C'est donc aussi important qu'un dogme. Appelons-le simplement les apparitions. Marie continue à apparaître. Avez-vous remarqué? Elle continue à apparaître. Elle descend du ciel sur la terre pour se faire connaître à certaines personnes. Elle vient assez souvent. Elle vient toujours avec des messages secrets. Elle vient avec des messages secrets pour des personnes très isolées. Elle est venue à Banneau, près de Liège, en Belgique. En 1933, elle est apparue 8 fois à une paysanne de 11 ans. Elle est revenue à Borin, en Belgique, à peu près à la même période. Les apparitions ont commencé en 1932 et se sont terminées en 1933. Elle est apparue 33 fois à 5 petits-enfants dans le jardin d'un couvent. Elle est venue vers Fatima, qui, comme je vous l'ai dit plus tôt, est au Portugal. Elle est apparue 6 fois en 1917 à 3 enfants dans un champ. Fatima est au nord de Lisbonne. Elle est venue en Guadeloupe, au Mexique, 4 fois en 1531 à un Indien du nom de Juan Diego, sur une colline à l'extérieur de Mexico. Elle est venue à la Salette en France, apparaissant comme une figure affligée et en pleurs, encore à 2 enfants paysans. Elle est venue à Lourdes. Vous avez probablement entendu parler de Lourdes en France, s'identifiant comme la Marie Immaculée, affirmant la doctrine catholique. Elle apparaît 18 fois entre le 11 février et le 16 juillet 1858, les 18 fois à une fille de 14 ans nommée Bernadette Soubirous. Elle apparaît dans une grotte près de Lourdes, qui est dans le sud de la France. Elle apparaît 3 fois en 1830 à Catherine Labouré, dans la chapelle de la maison Mère des Filles de la Charité de Saint-Vincent-de-Paul, à la rue du Bac à Paris. Ce ne sont que quelques-uns qui sortent de l'almanach catholique. Elle vient souvent et assez régulièrement. En fait, les apparitions deviennent actuellement nombreuses. Le dernier pape, le pape Benoît XVI, connu auparavant sous le nom de cardinal Ratzinger, a déclaré ceci. En 1984, Joseph, cardinal Ratzinger, chef de la Congrégation pour la doctrine de la foi de l'Église catholique romaine, était le portier doctrinal du catholicisme romain. Un des signes de notre temps est que les annonces d'apparitions mariales se multiplient partout dans le monde. Il fait cette observation comme un commentaire sur les nombreux rapports de l'apparition de la Bienheureuse Vierge Marie à des individus situés dans une grande variété de pays, de cultures et de systèmes politiques. En fait, le dernier siècle et demi a vu de nombreuses apparitions de la Sainte Vierge, disent-ils, et elles ont reçu l'approbation officielle de l'Église catholique romaine. Vous vous êtes peut-être rappelé de certains des mystiques catholiques du passé, par exemple Elisabeth von Schnonau, qui a vécu au XIIe siècle. Marie lui est apparue à plusieurs reprises. Elle est apparue à une autre femme, Anna Katharina, Émeric. C'est essentiellement la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle. Elle a continué à apparaître et à apparaître, et il y a beaucoup d'écrits sur ces deux femmes mystiques et sur toutes les apparences de Marie. On se demande pourquoi le Seigneur Jésus ne souhaite jamais faire la même chose. Il perd définitivement le concours de popularité parce qu'il ne se présente jamais, ce qui renforce la popularité de Marie, parce que Jésus semble indifférent à tout le monde, tandis que Marie est si sympathique qu'elle se présente toujours dans les endroits obscurs et parle aux paysans. Elle est certainement beaucoup plus aimable que Jésus. À travers ses apparitions, selon un auteur, Marie a appelé les catholiques à se repentir, à accomplir des actes de pénitence, à prier le chapelet pour la conversion des pécheurs, et a prié pour la paix dans le monde. Elle a demandé aux catholiques de se consacrer à une plus grande dévotion sous les titres de son cœur immaculé et de sa conception immaculée, parce que l'absence de péché est l'idée du cœur immaculé. Immaculée conception et cœur immaculé. Quand vous pensez au catholicisme, vous pensez au cœur immaculé, n'est-ce pas? C'est quelque chose qu'ils décrivent constamment. Vous avez une représentation de Marie, une image de Marie, avec un grand cœur. Les pratiques religieuses se sont également développées à la suite de ces apparitions, telles que le port de la médaille miraculeuse et de la médaille scapulaire, qui portent toutes deux des images de Marie, dans une apparence supposément au pape Jean XXII, qui vivait au XIVe siècle. Marie aurait dit aux catholiques de porter le scapulaire, qui sont deux carrés de tissu portant souvent des images reliées par de la ficelle et pendues autour du cou. Marie a promis au pape Jean que les catholiques qui mouraient en portant le scapulaire en son honneur seraient délivrés du purgatoire le premier samedi après leur mort. Donc, si vous voulez sortir du purgatoire le premier samedi après votre mort, vous passez toute votre vie, parce que vous ne savez pas quand vous allez mourir, avec ce truc autour du cou. Chaque année, 5,5 millions de pèlerins catholiques visitent Lourdes. Presque autant vont voir Fatima et la cathédrale de la Vierge de Guadalupe, près de Mexico. En Europe centrale, l'aspect principal des apparences de Marie et de l'attention des pèlerins est le sanctuaire de Notre-Dame de Częstochowa, une icône en bois d'une Madone noire datant du XIVe siècle. Le plus connu est cependant Medjugorje, en Bosnie-Herzégovine. Là, Marie est apparue à 6 paysans. Elle leur est apparue vers 1981, presque tous les jours. Plus de 10 millions de catholiques sont allés à Medjugorje pour voir ce qui arrive quand Marie est là. Un livre, en 1993, listait environ 1 millier d'apparitions de Marie qui ont été documentées. 30 fois au XVIIIe siècle, 200 fois au XIXe siècle et 450 fois au XXe siècle. Elle progresse rapidement. Le cardinal Meissner prétend que Marie a amené Christ en Europe avec Fatima, et on se demanderait où il était avant cela. Si c'est elle qui l'a amené. Elle a visité une ferme en Géorgie, un immeuble de bureau à Clearwater en Floride, et un mur de métro récemment à Mexico. Elle vient si souvent, et surtout vers les pauvres, où elle vient pour les petits-enfants. Elle vient chez les paysans. Et cela valide le fait qu'elle est cette personne aimante, sympathique, miséricordieuse, tendre et compatissante. Permettez-moi de vous lire quelques extraits d'apparition.org, commentant le phénomène de Medjugorje. Depuis que les apparitions ont commencé en 1981 à Medjugorje, des millions de personnes de toutes les religions ont visité Medjugorje et sont reparties spirituellement renforcées et renouvelées. Je ne suis pas sûr de comprendre la dynamique qui est là. D'innombrables non-croyants et d'affligés physiquement ou mentalement ont été convertis et guéris. Notre-Dame continue de donner des messages à 6 jeunes du village de Medjugorje. Ivan, Jakov, Marija, Mirjana, Vika et Ivanka. Ces 6 jeunes, appelés visionnaires, ont eu des apparitions de la Bienheureuse Vierge Marie depuis le 24 juin 1981. En plus de ces messages, Notre-Dame doit donner à chacun des 6 visionnaires un total de 10 secrets ou événements qui se produiront sur la Terre dans un proche avenir. Seul un des secrets jusqu'ici a été révélé par les visionnaires. Il y en a 9 autres à découvrir. Notre-Dame a promis de laisser un signe surnaturel, indestructible et visuel sur la montagne où elle est apparue. Lorsque chacun des 6 visionnaires aura reçu tous les 10 secrets, Notre-Dame cessera d'apparaître à eux tous les jours. Actuellement, Marija, Vika et Ivan ont reçu 9 secrets, et la Gospa leur apparaît toujours, tous les jours, où qu'ils se trouvent, à 17h40 en été et 18h40 le reste de l'année, l'heure de Medjugorje. Mirjana, Jakov et Ivanka ont reçu tous les 10 secrets, et la Gospa leur apparaît une fois par an et continuera jusqu'à la fin de leur vie. Alors ils se dirigent tous vers les 10, et chacun d'eux en aura 10 pour un total de 60. Quand ils auront reçu tous les secrets, la Vierge écrira quelque chose sur la montagne qui va affecter le monde entier. La personne, s'il y a vraiment quelqu'un qui leur apparaît, est sortie de l'enfer. C'est démoniaque, c'est sûr. Mais quelle assurance Et quelle ingéniosité les démons offrent-ils aux trompés et aux damnés avec leur contrefaçon infernale? Il y a plus. Voici la septième et très importante doctrine concernant Marie. Cela tourbillonne dans le catholicisme depuis longtemps. C'est Marie qui est médiatrice. Marie est ce canal de toute grâce divine, à travers lequel Dieu touche les personnes. Écoutez la déclaration officielle de l'Église catholique, Ludwig Ott. Aucune grâce n'est accordée aux hommes sans sa véritable coopération d'intercession. Ott, pages 211 et 212. La sublime dignité de Marie, comme reine du ciel, la rend suprêmement puissante dans son intercession maternelle. Elle intercède auprès de Dieu et du Christ pour obtenir grâce pour tout ce dont nous avons besoin, et la grâce ne vient jamais que par son intercession. De Ligori dit, page 159, « Nous pouvons avoir peur d'aller à Dieu, parce que c'est sa majesté infinie que nous avons offensée. Marie n'a rien en elle pour nous terrifier. C'est la ligne de fond. Marie est inoffensive, compatissante, tendre. N'allez pas à Dieu, il est dur. N'allez pas à Jésus, il est dur, il ne se montre jamais. Alors, il est indifférent. Allez à Marie, c'est le système. Et ainsi Satan a détourné toutes ces personnes qui disent adorer Dieu et le Christ dans un culte démesuré de Marie. Le catéchisme catholique romain, page 252, numéro 969. Par conséquent, la Sainte Vierge est invoquée dans l'Église sous le titre d'avocat, d'aide, de bienfaitrice et de médiatrice. Elle est le refuge principal et souverain des catholiques dans leurs procès. Voici une déclaration appelée « Apostolat suprême », un document catholique. L'Église catholique a toujours et avec justice mis tout son espoir et sa confiance dans la Mère de Dieu. Elle est associée à lui dans l'œuvre du salut de l'homme et a plus de faveur et de pouvoir avec son Fils que n'importe quelle autre créature humaine ou angélique n'a jamais obtenu ou puisse jamais obtenir. Le point est que vous allez à Marie parce que Jésus ne peut résister à Marie, et Marie, parce qu'elle est si miséricordieuse, ne peut pas vous résister. Marie prétend que l'Église peut persuader Dieu d'accorder ce qu'il ne lui accorderait pas autrement. Un autre document catholique romain. Tous les hommes, d'ailleurs, sont pleins d'espoir et de confiance que les prières, qui pourraient être reçues avec moins de faveur des hommes indignes, seront acceptées et seront favorablement écoutées par Dieu, quand elles lui sont recommandées par la très sainte Mère. Vous vous tapez la tête contre le mur si vous allez à Dieu vous-même. Allez à Marie, car il écoutera Marie. Fausto appetente die. Un autre document catholique dit « Saint Dominique savait bien que, d'une part, Marie est toute puissante avec son divin Fils. Rappelez-vous simplement cela. Elle est toute puissante avec son divin Fils, qui accorde toutes les grâces à l'humanité à travers elle. D'un autre côté, elle est par nature si bonne et si miséricordieuse que, encline à aider spontanément ceux qui souffrent, elle est absolument incapable de refuser son aide à ceux qui l'invoquent. L'Église a l'habitude de saluer la Vierge comme Mère de la Grâce et Mère de la Miséricorde. Et c'est ainsi qu'elle s'est toujours montrée, surtout quand on a recours à elle au moyen du Saint-Rosaire. Vous voyez, le catholicisme romain et le culte de la déesse païenne, c'est complètement distrayant. Dieu est réinventé comme juge dur. Le Christ est réinventé comme indifférent. Tout le monde vénère Marie. Écoutez ce que dit Superiore Anno, un autre document sur Dieu. Nous avons l'espoir confiant que Dieu se laissera enfin émouvoir et avoir pitié de l'état de son Église et écouter les prières qui lui viennent par Marie. Le pape Pie XII a enseigné, tandis que Pierre a les clés du paradis, Marie a la clé du cœur de Dieu. Quand elle tourne la clé, l'Église garantit que la serrure s'ouvrira. Un autre document catholique dit « Nous ne pouvions pas trouver une protectrice plus puissante ou plus irrésistible devant Dieu. Elle est pour nous la meilleure des mères, notre confidente la plus sûre, et, en fait, le motif même de notre espoir. Elle obtient tout ce qu'elle demande, et sa prière est toujours entendue. » Une autre citation. « Marie est toute puissante avec son Fils divin, car elle est la puissante mère de Dieu. » Tanto studio. Un autre document. « Pendant les prières de ceux qui sont au ciel, il y a certainement des droits à l'œil vigilant de Dieu. Les prières de Marie placent leur assurance sur le droit d'une mère. » Pour cette raison, quand elle s'approche du trône de son Fils divin, elle supplie comme une avocate, elle prie comme une servante, mais elle commande comme une mère. Elle commande Jésus. Qui est cette personne? Qui est-ce? C'est un faux Dieu. Marie a même le pouvoir de nous sauver. En priant Ave Maria, les catholiques disent ceci. Priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, demandant à Marie d'étendre le salut. Le catéchisme de l'Église catholique dit ceci. En demandant à Marie de prier pour nous, nous nous reconnaissons comme de pauvres pécheurs. Nous nous adressons à la Mère de la Miséricorde, la Toute Sainte. Nous nous donnons à elle, maintenant, dans le présent de nos vies, et notre confiance s'élargit, déjà, en ce moment présent, pour rendre l'heure de notre mort entièrement à son soin. Qu'elle soit là, comme elle l'était à la mort de son Fils sur la croix. Qu'elle nous accueille comme notre Mère, à l'heure de notre passage, pour nous conduire à son Fils Jésus, au paradis. Est-ce une sorte de mouvement parmi les ignorants? Est-ce une sorte de mouvement de roturier? Je ne pense pas. Il y avait un jour dans la vie de Jean-Paul II, un jour effrayant pour lui. Mehmet Ali Agca, un terroriste psychopathe et un meurtrier reconnu coupable. Un Turc de 23 ans lui a tiré une balle dans le ventre. Il avait un pistolet automatique Browning de 9 mm. Il était sur la place Saint-Pierre et il a tiré sur le pape et l'a touché. Un ami a attrapé le pape qui tombait et l'a entendu prier. « Marie ma mère, Marie ma mère !» Son biographe a dit que le plaidoyer était toujours sur ses lèvres 15 minutes plus tard, quand il s'est évanoui à l'hôpital Gemelli, avec une chute de pression sanguine qui menaçait sa vie. Il a immédiatement servi les derniers rites. La place Saint-Pierre était pleine de monde. Certains sont allés au trône du pape placer une image sur le trône, et l'image était une image de Marie. Au verso de la photo, il était écrit « Que Notre-Dame protège le Saint-Père contre le mal ». Immédiatement, le chapelet fut diffusé sur les haut-parleurs du Vatican. À 8 heures, le pape était stable, confiant que Dieu ait entendu le plaidoyer de Marie pour sa vie. Et la foule commença à se disperser. Ce n'est pas une opinion de roturier non éduqué. Cela vient du sommet. Revenons un peu dans l'histoire de Jean-Paul II, après la mort de sa mère à l'âge de 8 ans. Son vrai nom, Karol Wojtyla. Il développa très jeune une intense dévotion à Marie, car cela faisait partie du système entier. Quand il est devenu pape, en 1978, il s'est officiellement consacré lui-même et tout son pontificat à Marie. Dans ses voyages, en tant que pape, il a constamment visité les sanctuaires mariaux, et ils sont partout dans le monde. Il a fait de la dévotion à Marie l'objet principal de ses prières, l'accent principal de ses propres dévotions personnelles. Le pape Jean-Paul avait un écusson qu'il utilisait comme armoirie. Sur la partie centrale de l'écusson, était un énorme M pour Marie. Quand il mourut, son cercueil était décoré de cette grande lettre M, signifiant ce qu'il avait dit tant d'années auparavant. « Je suis totalement à toi, Marie. » Dans des notes incluses dans son testament, il cite les paroles d'un ancien cardinal polonais qui l'avait inspiré. « La victoire, quand elle viendra, passera par Marie. » Quiconque suit la prédication de Jean-Paul pourrait voir son intense dévotion à Marie. Le mercredi 7 mai 1997, Jean-Paul a dit « L'histoire de la piété chrétienne enseigne que Marie est la voie qui mène au Christ. » Il a écrit un livre intitulé « Le livre de Jean-Paul II sur Marie ». La copie d'annonce dans le livre indique que c'est un livre pour les personnes qui cherchent une relation plus profonde avec Jésus et sa mère. La table des matières dans le livre énumère tous les titres que Jean-Paul II a crédités à Marie. « Porte du ciel », médiatrice de toutes les grâces, dont nous parlons, miroir de la perfection, mère de l'Église, mère de la miséricorde, pilier de la foi, siège de la sagesse. Voici un échantillon de choses du livre. Marie partage notre condition humaine, mais en totale ouverture à la grâce de Dieu. N'ayant pas connu le péché, elle est capable d'avoir de la compassion pour toutes sortes de faiblesses. Elle comprend l'homme pécheur et l'aime avec l'amour d'une mère. C'est précisément pour cette raison qu'elle est du côté de la vérité et partage le fardeau de l'Église, en rappelant toujours et à tous les exigences de la moralité. Une autre fois, il a dit « Pour chaque chrétien, pour chaque être humain, Marie est celle qui a cru la première, et précisément, avec sa foi, comme épouse et mère. Elle veut agir pour tous ceux qui se confient à elle, comme ses enfants. Et il est bien connu que plus ses enfants persévèrent et progressent dans cette attitude, plus Marie les conduit vers les richesses insondables du Christ. Si jamais vous voulez aller au Christ, vous devez passer par Marie. Et je me demande à nouveau, qu'est-ce que c'est ? C'est une fabrication satanique. C'est adorer les démons. Il dit plus loin. Alors que les chrétiens lèvent les yeux avec foi vers Marie au cours de leur pèlerinage terrestre, ils s'efforcent d'augmenter dans la sainteté. Marie, la fille exaltée de Sion, aide tous ses enfants, où qu'ils soient, et quelle que soit leur condition, à trouver en Christ le chemin de la maison du Père. Il dit, « Personne d'autre ne peut nous amener, comme Marie, dans le divin et l'humain. » Et encore, « Nous pouvons nous tourner vers la Sainte Vierge,
en employant avec confiance son aide,
dans la conscience du rôle singulier que Dieu lui a confié. Le rôle, écoutez, de coopératrice dans la rédemption qu'elle a exercée tout au long de sa vie d'une manière spéciale, au pied de la croix. Maintenant, c'est une déclaration assez audacieuse.
Elle n'est pas seulement la médiatrice de toute la grâce.
Le canal par lequel toute grâce vient. Celle à qui nous allons pour tout. Mais elle est même impliquée dans notre rédemption. Léon XIII a dit, selon l'Église, Marie est le canal unique de bénédiction de Dieu.
Dieu accorde toutes les grâces à l'humanité à travers elle.
Et Benoît XV a affirmé que
elle est le siège de toutes les grâces divines
et le trésor presque infini vers qui l'Église exhorte les fidèles à fuir en cas de besoin. Je pourrais continuer encore et encore avec tout cela, mais je pense que vous voyez l'image. L'Église dit « Rien ne vient à nous, sauf par la médiation de Marie, car telle est la volonté de Dieu. »
L'Église dit
« Marie est la médiatrice la plus puissante et l'avocate du monde entier avec son divin Fils. » Les prières du rosaire disent « Salut, Sainte Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur et notre espoir. À toi nous pleurons, pauvre enfant banni d'Ève. À toi nous envoyons nos soupirs, pleurant dans cette vallée de larmes. Tourne donc, la plus gracieuse avocate, tes yeux de miséricorde vers nous. Et après notre exil, montre-nous le fruit béni de tes entrailles, Jésus. Ô clémente, ô aimante, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. C'est ce que de Ligori a dit, en remontant loin. Marie a été faite médiatrice de notre salut, pas une médiatrice de la justice, bien sûr, mais de la grâce. Il a dit, elle a été mise comme une échelle au paradis, la porte du ciel. C'est ainsi que Jean-Paul II l'appelait, la plus véritable médiatrice entre Dieu et les êtres humains. De Ligori dit, Dieu a décrété toutes les grâces entre ses mains. Il a dit, Marie est la source de tout bien et la maîtresse absolue de toutes les grâces. Et encore, Otte, le théologien catholique romain. Aucune grâce ne revient à l'homme sans l'intercession de Marie. Veritatis Splendor, de Jean-Paul II, dit, elle est la mère qui obtient pour nous la grâce divine. Il y en a encore deux autres que j'aimerais partager avec vous, mais vous avez assez souffert. Je pense que ce que je vais faire, c'est probablement plus sage. C'est de finir dimanche prochain, le soir, parce qu'il n'y en a que deux de plus, mais il y a beaucoup plus de pages dans mes notes. Je serai infidèle au devoir qui est le mien, si à la fin de tout cela, je n'ai pas ouvert la parole de Dieu pour y prendre un réel regard biblique. Donc je comprends que le prochain jour du Seigneur est le dimanche de Pâques, mais dimanche soir, nous avions planifié une soirée de questions et réponses. C'est beaucoup plus important de terminer ce sujet, et nous allons conclure la prochaine fois. Au cas où vous vous demandez ce que sont les deux restants, je ne devrais pas vous le dire. Je devrais vous faire venir pour les découvrir. Mais parce que je veux être gentil, nous en avons déjà suggéré un. Elle est co-rédemptrice avec Jésus. Et le dernier, tout aussi choquant, elle est la source du mérite éternel. Elle a non seulement participé à notre rédemption, mais elle n'avait pas besoin d'être tellement plus sainte qu'elle n'était déjà. Elle avait plus de sainteté qu'elle n'en avait besoin, ce qui est maintenant disponible aux pécheurs pour un prix. Cela nous amène à l'idée de vendre des indulgences, de vendre l'excès de justice de Marie, et c'est ce qui a hérité Martin Luther et a lancé la réforme. Après avoir regardé ces deux points, nous regarderons ensuite la parole de Dieu et ce qu'elle a à dire sur l'adoration d'un faux Dieu. Ainsi, Seigneur, nous avons l'impression d'avoir vu le trône de Satan. C'est effrayant, terrifiant. Et ce qui est tout aussi tragique, c'est le nombre de personnes involontaires qui veulent embrasser ce système comme si c'était vrai. Ces personnes qui sont dans ce système adorent un faux Dieu, violant le premier commandement. Ils ont un autre Dieu. C'est Dieu lui-même qui a dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi ». Ils adorent une déesse selon le dessein de Satan, qui efface la vérité du christianisme et ne laisse que des vestiges de christianisme dénués de toute tradition démoniaque. Nous disons tout cela dans l'amour, par une conscience claire et une foi sincère, parce que la vérité compte. Cela compte plus que toute autre chose. C'est plus important que notre bonheur, parce que les gens soient bien avec nous, qu'ils nous aiment, que nous ayons des bonnes relations. La vérité compte plus que tout, car ce que vous faites de la vérité ou de l'Évangile détermine votre éternité. Nous serions infidèles et sans amour, au pire, si nous n'étions pas prêts à affronter l'erreur. Nous croyons que l'attitude avec laquelle elle a été traitée est une préoccupation sérieuse et en même temps un amour authentique. Les personnes ont besoin d'être sauvées de ce système. Il ne doit pas être identifié comme chrétien. C'est de l'idolâtrie, un paganisme blasphématoire de la pire espèce, car être mêlé au christianisme le rend encore plus trompeur. Aide-nous à trouver des moyens d'éloigner les personnes de ceux qui sont pris dans ce système. À Christ, qui est le seul à avoir la sagesse salvatrice. Quiconque a confiance en Marie, pour le salut, a pollué l'Évangile. Peu importe pour quelle raison, il se tourne vers Jésus. Elle est inadéquate parce que Jésus exige toute notre foi, toute notre affection, toute notre confiance et toute notre espérance placée en lui et lui seul. Alors utilisez ce message. Nous prions dans la vie de ceux qui l'ont entendu, qui le répéteront et qui l'entendront encore au fil des ans, à mesure que ce message se répétera. Et nous reconnaissons encore une fois la bénédiction d'avoir la vérité et de connaître la vérité vivante. Le Seigneur Jésus-Christ, au nom de qui nous prions. Amen.
Pour de plus amples renseignements, ainsi qu'un accès gratuit aux leçons de John, connectez-vous à Une Grâce pour vous sur le site gty.org. Le site vous offre la possibilité d'acheter la Bible d'étude de MacArthur, qui est la principale ressource financière du ministère de John. Le site vend toutes les traductions disponibles. Par contre, il n'est pas possible de la fournir gratuitement pour chaque pays où ce message est entendu. John MacArthur et Une Grâce pour vous sont dépositaires du copyright pour tous ces messages. Nos conditions en ce qui concerne la duplication des messages sont indiquées sur le site gty.org.